Tranche de vie, une émission proposée par JF.
La famille Fresneau est enchantée de l'accueil que lui a réservé le service culturel de la mairie et la municipalité de Coulonnet-Chamiers pour cette exposition. Et elle souhaite que cet entretien soit aussi l'occasion de lui dire toute sa reconnaissance. Chers amis auditeurs de Tranche de Vie, je me trouve aujourd'hui au Château des Isards, dans les salles d'exposition, et je vais interviewer les artistes qui exposent pendant 15 jours en famille. Il s'agit de la famille Fresneau. La famille Fresneau qui est représentée par Madame Fresneau, dite Chou Fresneau, Serge Fresneau, le père, et leurs deux filles, qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui. Madame Fresneau, qu'est-ce qui vous a amené à venir exposer ici à Coulonnet-Chamiers au château des Isards?
Tout d'abord, la qualité de la région, le lieu de Coulonnet-Chamiers qui est orienté vers la culture. Et c'est quelque chose que, oui, je connaissais parce que j'avais, grâce à des amis, déjà visité des expositions au château des Isards et je me suis également déplacée dans Périgueux et la région. Mais le Périgord et moi, c'est une histoire ancienne puisque j'y passais les étés quand j'étais petite jusqu'à l'adolescence. Mon parrain habitait le Périgord, habitait à côté de Blizéborne, et j'aime toujours cette région qui est magnifique, qui est réjouissante, qui est verdoyante, avec beaucoup de végétation, des rivières, et c'est un vrai plaisir d'y retourner.
Là, vous êtes en train de dire des choses qui vont faire plaisir à beaucoup de monde, mais vous avez donc deux pays, alors, deux patries. Le Périgord, mais quelle est la deuxième? Où vivez-vous actuellement?
Nous vivons en Provence la plus grande partie de l'année, mais nous avons en réalité trois patries parce que nous nous déplaçons également dans l'Aveyron où j'ai une partie de ma famille.
Monsieur Fresneau, est-ce que vous aussi vous avez des attaches périgourdines?
Ah oui, on pourrait se laisser faire. C'est un paysage équilibré, les végétaux qui m'intéressent d'ailleurs, surtout le bruit de ces végétaux, de ces arbres, cette présence de la nature, d'une variété apparemment de cultures, donc de graphisme, ce qui m'intéresse principalement. J'adhère.
Madame Fresneau, vous exposez quel type d'œuvres au château des Isards pendant les 15 jours là, qui suivent le vernissage qui a eu lieu, je le rappelle à nos éditeurs, hier le 18 septembre?
J'expose au château des Isards des aquarelles, puisque c'est la technique vers laquelle je me tourne depuis quelques années. Je pratique également l'acrylique, les pastels et quelquefois la peinture à l'huile, mais au château des Isards, il y a surtout des aquarelles. Des aquarelles de la région dans laquelle j'habite, la Provence. J'ai également réalisé quelques aquarelles sur le Périgord. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une région que j'aime beaucoup. Son patrimoine architectural m'intéresse également beaucoup. Pourquoi l'aquarelle? Parce que j'aime représenter l'eau, l'air, les mouvements de l'eau, les mouvements des végétaux dans l'air, et la transparence de l'eau, l'atmosphère. Alors c'est une aquarelle qui est réaliste, mais qui n'est pas d'une réalité photographique, puisque ce n'est pas ce rendu qui m'intéresse là, mais plutôt un rendu atmosphérique.
Ça, c'est quand même une gageure, parce que moi qui ai eu le privilège de voir vos aquarelles, j'ai vu comment vous attaquiez à des thèmes aussi difficiles que des poissons rouges nageant à la surface de l'eau. Et ça m'a vraiment stupéfait de voir comment vous arriviez à rendre ça, bien que vous disiez que vous ne prétendiez pas au réalisme. Monsieur Fresneau, de votre côté, vous, quel est votre médium préféré ?
Ah, le médium technique mixte, mais le médium c'est surtout une pratique en ce moment, gestuelle, où à deux mains ou une main, les yeux clos, je surveille ce qui va se passer et je fais glisser du stylo à billes, du feutre, dans les phalanges de mes mains, de mes deux mains, plusieurs stylos à la fois aussi, et je crée donc une sorte d'irrigation, de texture, de circulation surveillée, d'un réseau qui n'est pas encore un sujet, qui n'a pas de nom. Mais il va tendre vers, effectivement, une sorte de structure où il y a des attouchements, des conflits, des égarements, des mises en activité, en fébrilité de ce tissu que j'évoquais, de ce tissu, cette cursive, de cette écriture, qui va devenir un sujet. Et ce sujet, donc, il va devoir falloir le maîtriser et le mettre en couleur. Dessus, dessous, entre, puisque je travaille avec du papier sopalin de table qui m'intéresse, et je peux le déliter, le travailler au milieu, le colorer, et le sujet petit à petit vient. Le sujet de nature vient, c'est l'océan, c'est le littoral, c'est les dunes, c'est le paysage périgourdin d'ailleurs, ce sont des paysages imaginaires. Je ne travaille pas sur le vivant, je ne travaille pas sur l'observer, je travaille, on va dire, en différé.
Est-ce que vous pourriez dire que votre technique a quelque chose à voir avec l'écriture automatique des surréalistes ?
Oui, on peut le dire, hein, mais j'ai tendance, donc, je vais vous dire, très franchement, non au départ, donc on ne va pas engager... un discours culturel, je tends à devenir un peu borgne et inculte. Et je désapprends à dessiner, voilà, c'est surtout ce qui m'intéresse. En laissant mon corps et mes extrémités plutôt conduire ce qui va se passer et devenir effectivement un thème présent, un thème parfois inachevé, où l'observateur va devoir terminer ce qui n'est encore pas dit, ou s'y perdre, ou s'y retrouver, s'y reconnaître. Voilà, c'est le but, des petits formats, parce qu'on vient mettre le nez dessus, c'est intéressant si l'on veut, si on est appelé.
Mais j'ai vu de vous aussi des collages, des assemblages de photos, de plages colorées, qui quand même ne quittaient pas complètement le réalisme. Donc est-ce que votre technique a évolué de ce point de vue-là ?
Oui, la technique a évolué. Le propos était différent, bien qu'il me préoccupe toujours, c'est le corps dans tous ses états. Ce que vous avez vu, c'est une partie de travaux effectués dans le cadre de peintes érotiques et d'un groupement d'exposants érotiques à Aix-en-Provence, qui m'a occupé il y a... déjà de nombreuses années, et qui participait de travail photographique, de virage photo, et de collage, donc, et de graphisme et de peinture sur ces mêmes sujets, qui visaient à devenir des éloges ou des trophées, et notamment s'attaquaient à la mythologie par ces thèmes, voire à l'histoire, avec toujours soit de la dérision, soit les mêmes préoccupations secrète, où il faut effectivement s'approcher, oser s'approcher sur le propos érotique qui n'est pas révélé, encore suffisamment voilé ou trop évident parfois, un jeu.
Est-ce que vous vous considérez, l'un et l'autre, comme des artistes professionnels ? Est-ce que votre passé professionnel vous a conduit directement à votre expression artistique actuelle ?
Personnellement, je ne me considère pas comme une artiste professionnelle. Le but de mon travail, le but premier, c'est de me faire plaisir et d'essayer de faire plaisir aux autres. Maintenant, il est certain que ma carrière professionnelle, puisque j'étais enseignante en expression plastique et en histoire de l'art, m'a probablement conduite à produire des aquarelles et autres, et à m'exprimer par la peinture.
Et vous, Serge Fresneau ?
Le partenaire enseignant, Nous avons eu, je pense, une bonne formation l'un et l'autre aux arts appliqués autrefois, où nous avions une palette d'apprentissage à la fois du dessin, de l'espace, de la couleur et des préoccupations artistiques de l'histoire de l'art. Donc moi aussi, je me suis occupé pendant de nombreuses années de sections d'art appliqués, notamment de l'architecture intérieure, design global et histoire de l'architecture. Voilà. Quant à me sentir à part entière un peintre de piédestal, non, c'est une nécessité, un temps suspendu.
On ne va pas aller jusqu'à parler de peintre de piédestal, mais enfin, vous êtes quand même des vieux routiers, des expositions, vous avez fait déjà de nombreuses expositions.
C'est exact, nous avons fait de nombreuses expositions, mais je ne me considère pas comme une artiste professionnelle, même je dirais ça me gêne quand on me dit artiste peintre. Je m'exprime par la peinture et voilà.
Écoutez, votre humilité, l'un et l'autre, vous honore beaucoup, mais si vous permettez maintenant, je voudrais quand même que vous me parliez, puisqu'elles ne sont pas là, de ce que font vos deux filles qui, l'une et l'autre, sont aussi des artistes et exposent au château des Isards pendant les deux semaines qui viennent, qui commencent.
Je vais commencer par vous parler de notre fille aînée. Avant cela, je voudrais quand même vous dire que nos deux filles ont fait des études artistiques dans deux domaines différents d'ailleurs, une dans la communication visuelle et l'autre dans la communication multimédia. Notre fille aînée s'est orientée vers l'art numérique, la peinture numérique. Elle, différemment de nous, au lieu de s'exprimer avec le crayon, le pinceau tel que nous le connaissons tous, va passer par l'intermédiaire d'un ordinateur et par des photographies. Elle prend des photographies, elle superpose, elle mixe ses photographies. Ensuite, elle retravaille avec l'ordinateur et donc tous les outils qui sont à sa disposition, les pinceaux numériques, les crayons numériques, l'aérographe, tous les procédés proposés par l'ordinateur. Et donc, elle retravaille ses photos, elle dessine, elle rajoute du dessin. Et une fois ceci terminé, elle va les faire imprimer sur toile.
Est-ce qu'on peut parler de technique mixte ?
Je ne sais pas si on peut parler de technique mixte. On peut parler de technique mixte dans ce qu'elle utilise, dans les mélanges qu'elle réalise par le biais de l'ordinateur. Et les différentes superpositions et les différents outils numériques. Si c'était avec des outils traditionnels, nous pourrions parler effectivement de technique mixte. Donc je pense que même avec l'ordinateur, la qualification est juste.
Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de votre seconde fille, la cadette ?
Alors, la cadette est très prolifique et polyvalente. Elle dessine, elle peint, elle réalise des objets lumineux, donc des luminaires, mais qui sont en pièces uniques ou en série très très limitées, en détournant des objets usuels. Donc c'est à la fois humoristique, poétique, très coloré, et elle réalise également des bijoux.
Vous dites, ça c'est vraiment quelque chose de complet. Alors vous êtes une famille qui couvre absolument tous les...
Vous oubliez le gendre.
J'oublie, exactement, j'oublie le gendre, puisque le gendre n'est pas là. Un des gendres n'est pas là, et là il expose effectivement au moins une peinture, je crois, puisque lui aussi a été atteint par le virus de la production artistique.
C'est notable.
Alors, est-ce que vous pourriez maintenant me dire un petit peu quelles sont vos autres passions ? Traditionnellement, dans notre émission, nous parlons, nous abordons les autres passions que peuvent avoir nos interlocuteurs, et j'aimerais savoir quelles sont vos autres passions.
Une passion, c'est dans la conversation de proximité, de délier les langues. J'aime bien ce rapport Donc on peut distinguer effectivement les tempéraments des gens et puis exercer donc un questionnement qui, quand il apporte cet échange, est positif. Voilà. Et puis du jardinage, un peu. Faut bien cultiver.
Vous avez dit que vous intéressiez de près à la végétation, donc jardinage, c'est quand même une manière de s'y intéresser et de et peut-être de trouver l'inspiration.
Oui, oui. Bah, oui, tout à fait. Quand on touche une racine, quand on touche de la terre, et quand on entend en même temps les bruits autour de ce que l'on fait, là précisément, bruissement de feuilles, nuages qui passent, les petits oiseaux qui chantent, tout ça, c'est un tout, c'est un grand paysage global, tout ça, ça interfère. Oui.
Choufreno, avez-vous d'autres passions que la peinture et la représentation du réel, telle que vous la concevez?
J'ai une autre passion, j'adore les voyages. J'adore me promener, visiter d'autres lieux, rencontrer d'autres gens, rencontrer d'autres cultures, mais je dois dire que tout ceci a quand même un lien avec ma production, puisque je produis des aquarelles lors de ces voyages.
Oui, on voit, alors je signale à nos auditeurs que dans les œuvres exposées, il y a des scènes, des paysages, périgourdins d'ailleurs, bien sûr, quelques-uns, mais aussi en particulier à Venise, et dans d'autres endroits où vous avez pu vous déplacer. Serge Fresno.
Alors vous parlez de Venise, justement, donc l'eau, le reflet, sous l'eau, au fond de l'eau. Mon épouse a effectivement une dextérité exemplaire à percevoir et à traduire effectivement sur le sujet et le vécu. Et très curieusement, je suis assis à côté assez souvent et je regarde, mais je ne fais rien. Ça, c'est de la pudeur, j'ai peur. J'ai peur de l'ascension.
Vous avez peur de Venise?
Ah non, non. Il mourra à Venise quand même. Mais non, j'ai pas peur de Venise. Au contraire. Mais je fais le Venise d'après, quand je rentre à la maison. Ouais. Voilà, c'est le Venise fou.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire, en termes, pour parler en termes de psychologie simpliste, que Choufreno est primaire, caractère primaire en peinture, et que vous êtes un secondaire? C'est-à-dire que vous allez réagir, mais après, aux impressions que vous avez reçues.
Oui, absolument, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que ça laisse une grande part à l'imaginaire. On n'est pas là pour contrôler si le dôme est juste, si le fronton est celui, effectivement, qui appartient à ce dôme. Et ces reflets sont effectivement vérifiables photographiquement. Non, non, il s'agit d'une animation, une sorte de jeu de la doublette, du vrai-faux, qui, en fait, confirme les résultats, quoi, au final.
Mais dites-moi, de ce fait, vos productions doivent être quand même moins accessibles au commun des mortels que celles de Madame Fresno.
Oui. Bah oui. C'est pas le désir de masquer, le désir de disparaître, c'est pas ça du tout. C'est que j'attends effectivement une relation, il faut qu'elle se pose, il faut que l'observateur accepte de rentrer dans le jeu, quoi. Et ils viennent, je le disais tout à l'heure, mettre son nez et ses yeux sur le petit format. Certainement. Et c'est peut-être pour ça que je ne fais pas du grand format, tout du moins actuellement, du tout.
Mais est-ce que ça n'est pas une gageure d'attendre du spectateur qu'il saisisse les impressions que vous avez ressenties et que vous avez rendues d'une manière, de la manière que vous décriviez, quasi automatique? Et avec une distance entre le moment où vous l'avez ressenti et le moment où vous l'exprimez?
Ben oui, mais j'attends le partenaire. Alors, je ne sais pas si on a besoin de ma présence à ce moment-là. Ce qui m'intéresse toujours, c'est effectivement, je ne suis pas un épieur hein, ou un observateur de mon œuvre sur le mur et de piquer ou de guetter la personne intéressée. Du tout. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être délicat. Et j'observe que probablement je suis moins regardé, ou non moins approché, on va dire. Là-bas, je m'appelle volontiers tapissier parce que j'expose des murs entiers de nappes nappes sur le porte-manteau qui font défiler effectivement le travail d'une suite de corps, d'une suite de paysages qui sont faits soit dans l'urgence, soit avec beaucoup plus de temps attribué. Mais dans la journée, c'est pour ça que j'aime bien marquer les jours.
Oui, donc vous avez quand même un travail quand même qui est très ambitieux, parce que vous voulez saisir des suites d'impressions dans le temps. Mais dites-moi, vous avez quand même, je sais quand même que vous avez, vous en avez parlé rapidement, vous avez quand même une autre passion qui est l'architecture. Alors parlez-moi un petit peu de cette passion quand même. Qui ne vous a pas quitté depuis votre formation. Vous vous intéressez quand même à l'architecture moderne et pas seulement d'intérieur.
D'intérieur, oui. Il y a l'intérieur et l'extérieur. Bon, peut-être que l'architecture apparaît maintenant comme l'enveloppe du jambon. Le produit est à l'intérieur et l'enveloppe, effectivement, est tentatrice. Enfin, c'est la signature d'appel. Voilà, mais je prends une distance probablement avec l'architecture aussi à l'heure actuelle. Bon, la chance qu'on a eue dans l'architecture, c'est que c'est un contenant et que c'est un contenant de tous les effets et de tous les sons réunis. Pas le hasard d'écouter des résonances, d'étouffer des bruits, de faire entrer de la lumière, de faire entrer un jeu de billard de lumière d'un mur sur un autre, de couvrir, d'avoir l'exigence de la tenue d'un bâtiment, effectivement, et puis le message livré.
Vous vivez dans une région où il y a quelques artistes, quelques architectes fameux qui s'illustrent par des bâtiments qu'on commence à connaître. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, puisque nous sommes là dans notre centre-ouest, un petit peu à l'écart de ces courants de modernité.
Moderne, un grand moderne, Le Corbusier, la cité radieuse.
Par exemple, mais plus près de nous, peut-être le musée, nouveau musée de Marseille.
Oui, le MUCEM, oui. Courageux, un manifeste, un geste, un grand geste. Ce pont qui enjambe dans un béton très spécial, effectivement, qui enjambe sans point d'appui intermédiaire une partie du port qui vient pénétrer par le haut. Cette descente du haut vers le bas est intéressante. Mario Botta, dans le temps, avait su bien expérimenter aussi dans des reliefs l'entrée d'un édifice du haut vers le bas. Et cette espèce de cage, cette dentelle, qui était décrite comme ça à l'origine, qui est devenue moins dentelle, mais plus un moirage d'algues et de reflets qu'il faut bien traduire en béton. Donc cette matière à la fois décorative, enveloppante de l'espace qui décline donc à plusieurs niveaux c'est l'exposition sur la Méditerranée.
On écouterait Serge Fresneau parler de l'architecture moderne et de son art pendant des heures, mais moi je vais revenir sur Terre et me retourner vers Choufrénaud pour lui demander si, à son avis, l'un et l'autre et les autres membres de votre famille, vous êtes des artistes désincarnés. Est-ce que vous aimez la bonne cuisine? Est-ce que vous aimez boire un coup de temps en temps? Oui ou non?
Bien sûr, nous adorons la bonne cuisine et en particulier la cuisine périgourdine. C'est pas anodin non plus notre venue ici.
Voilà, très bien, très bien.
C'est la culture. Le marché, c'est un spectacle.
Et Serge Fresneau, vous êtes prêt à arroser la cuisine périgourdine avec des crus locaux, j'imagine.
Ah oui, les fruits locaux. Alors les fruits locaux.
Je parle des crus locaux.
Les crus locaux. C'est
oui, Bergerac, Pécharmant.
Pécharmant, oui, assurément. Oui. Mais j'ai de la compagnie pour ça, donc c'est un travail d'équipe.
Très bien. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion.
À la bonne chair et au vin et au bon vin. Bon. Ça se partage.
Votre exposition va durer 15 jours. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 15 jours en dehors de tenir à la disposition des visiteurs, de leur prodiguer des explications Et je vous le souhaite de vendre beaucoup de vos œuvres.
Puis on va revoir vraiment Aubeterre et cette étonnante église, ce défi au travail de descente pour créer un espace absolument époustouflant où l'expérience se fait, semble-t-il, en prélevant et non pas en dessinant l'espace et en le construisant, en enlevant de la matière. Vraiment, quelle expérience étonnante sans ordinateur.
Est-ce que vous allez voir les grottes peintes?
Ah, il faudrait le faire. Mais on ne sait pas là si on aura le temps. Oui. Il faudrait le faire, absolument. Oui, oui.
Et alors Choufrénaud parle du musée d'archéologie, par Jean Nouvel.
Oui, nous désirons y retourner. Nous le connaissons, nous l'avons déjà visité, mais nous allons y retourner. Faire également les petites rues de Périgueux que nous n'avons pas eu le temps de faire la dernière fois, et puis quelques bons restaurants.
Eh bien, je vous souhaite un très bon séjour et fructueux séjour à Périgueux, dans le Périgord, et une bonne exposition. Et je vous remercie beaucoup au nom de nos auditeurs de Tranches de Vie.
Merci. Merci.
C'était Tranches de Vie, une émission proposée par Jean-François. Mm-hmm.